BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Le sport, c'est bon pour la santé, en particulier le tennis, premier sport individuel en nombre de licenciés et de pratiquants en France. Sa fédération a 100 ans cette année et son médecin, le docteur Bernard Montalvan, médecin de l'équipe de France de Coupe Davis, nous présente son programme santé pour tous à la Fédération Française de Tennis. Qui dit activité sportive dit matériel adéquat. Et Jacques-Olivier Barral, ancien préparateur physique et patron France de la société Blackroll, nous présentera les produits que tout le monde devrait utiliser pour une meilleure santé et de meilleures performances. Enfin, pour changer de sujet, Catherine Rive, présidente du laboratoire UCB France et présidente de la commission de communication du LEM, accompagné de notre ami Olivier Robichon, évoquera l'image de l'industrie pharma qui s'améliore doucement mais sûrement et elle y travaille efficacement. Tennis, automassage, innovation thérapeutique, trois sujets différents mais tous dans le sens d'une meilleure santé. Check-up santé, c'est parti. Bernard Montalvan, bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Merci à vous. Vous êtes donc rhumatologue.
Oui.
D'ailleurs, installé pas très très loin des studios de BFM. Vous êtes médecin du sport et vous êtes médecin de la Fédération Française de Tennis, médecin de l'équipe de France de Coupe Davis. Est-ce que vous êtes vous-même sportif?
Oui, bien sûr, j'adore le sport, j'adore le pratiquer et j'adore le regarder à la télé.
Alors le sport, évidemment, c'est le sport idéal pour plein de choses, hein, et notamment pour la santé.
Oui, je pense que c'est un nouveau concept, si vous voulez, c'est que l'activité physique, le sport, faut le considérer maintenant comme un véritable outil thérapeutique. Et quand j'ai fait mes études, on faisait du sport, ça servait à rien, on perdait du temps, voilà. Maintenant, je pense que les jeunes médecins doivent bien comprendre, et tous les médecins le savent, que l'activité physique, c'est bénéfique pour la santé.
Et pour tout le monde, d'ailleurs.
Et pour tout le monde.
Oui, et pour tout le monde.
En prévention primaire et aussi quand on a des problèmes de santé.
Et donc, le tennis, il réunit pas mal de choses, hein, alors, justement.
Le sport santé, le tennis santé, ce qu'il faut comprendre, c'est l'activité physique pour tous, adaptée à chacun. C'est-à-dire que le tennis, c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé, à Roland-Garros, où on voit les joueurs qui font gauche-droite à fond et qui servent à 200 à l'heure. Le tennis, c'est aussi très possible de le faire avec des balles plus lentes, avec des filets plus courts, avec des raquettes plus importantes, avec pour faire quelque chose d'adapté à toutes les capacités physiques.
Oui, on parle beaucoup d'ailleurs du paratennis.
Alors le paratennis, ça s'est fait pour les gens qui sont en fauteuil et ils prennent beaucoup de plaisir et c'est des gens qui adorent faire du sport et ils se trouvent vraiment un vrai plaisir à faire ça.
Et les règles sont les mêmes?
Non, il y a deux rebonds.
Ouais.
Et sinon, les règles sont les mêmes.
Alors vous êtes tous les ans à Roland-Garros, c'est Vous qui un petit peu managez tout le staff médical. C'est une véritable usine.
Roland-Garros, c'est particulier, c'est un événement où on va avoir, où ça joue de 8h du matin jusqu'à maintenant minuit, 2h avec les night sessions, avec le court central qui est couvert. Donc il y a presque, on va dire, 18h d'activité non-stop. Donc on se doit d'avoir un service médical qui rassemble à peu près 800 joueurs pendant le tournoi. Ouais. Donc c'est un événement qui rassemble beaucoup de personnes.
Et le staff, j'ai vu que c'était près de 60 personnes.
Oui, on est à peu près entre les médecins, les kinés, les infirmières, les urgentistes. On doit être presque 70-75.
Ouais. Et les bobos, en général, c'est plutôt du musculaire, du tendineux, de l'articulaire.
Alors, ouais. Les bobos, c'est 45% les membres inférieurs, 30% les membres supérieurs et à peu près 15% le thorax, l'abdomen.
Ouais, évidemment, il y a les sportifs de très niveau, puis il y a évidemment monsieur tout le monde. Hein, mais pour les sportifs de haut niveau, est-ce que l'encadrement médical a changé? Est-ce qu'il a évolué ces dernières années? On a l'impression de voir des Formule 1, quoi.
Alors,
d'ailleurs, les joueurs jouent plus longtemps, les sportifs de haut niveau.
On voit bien que les meilleurs joueurs, je pense que on va tous voir Nadal, on va voir Federer qui va faire sa rentrée à 39 ans. Il y a des très très bons joueurs qui jouent jusqu'à 39 ans. Avant, les joueurs, ils arrêtaient vers 30 ans parce que la médecine a progressé, parce que le joueur s'entoure d'une équipe médicale plus staffée avec des diététiciens, des préparateurs physiques, la récupération, toutes les techniques de récupération ont bien évolué. On va le voir avec les massages, les rouleaux de massage. Tout évolue un petit peu en même temps pour pour qu'on dure plus, pour plus que long, le sportif longtemps. Dure un peu plus longtemps.
Plus longtemps, au même niveau surtout, plus longtemps.
Et au même niveau. Ouais.
Alors évidemment, il n'y a pas que les sportifs de haut niveau, il y a les autres licenciés et pratiquants. Parce que alors, je sais qu'il y a 1 million de licenciés en France.
Oui, on a 1 million de licenciés en France, on a à peu près 4 millions de pratiquants et 1 million de licenciés. Alors ça, si vous voulez, le tennis santé, j'y reviens, et le sport santé,
donc
j'y reviens.
Le programme santé un petit peu que vous avez initié à la
c'est
fédération.
C'est un programme vraiment qui nous a passionnés parce qu'en fait, en 2013-2014, c'était Alain Calma, qui est président du CNOSF, qui est lui-même médecin, lui-même sportif, s'est bien rendu compte que les gens qui faisaient du sport étaient en bien meilleure santé que les autres. Donc, il a demandé à toutes les fédérations de faire des programmes de leur sport en fonction des pathologies. Donc, on s'est attaché à faire ça. Donc on a pris des cardiologues, on a pris des diabétologues, on a pris des cancérologues et on a travaillé pour faire des programmes adaptés à chaque pathologie, des programmes spécifiques et on a commencé depuis 2014 à faire ça. On a tout un réseau au niveau de nos régions où on a des formateurs, où on forme nos professeurs. On a à peu près 450 diplômés d'État qui sont formés. On a labellisé à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, à peu près 150 clubs et il y a de plus en plus de clubs qui ont le label sport santé. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez un diabète, vous avez envie de faire du sport, vous avez un prof qui sait ce que c'est qu'un monsieur ou une dame qui est diabétique.
Et qui va l'orienter en
exactement.
Fonction de...
Et en prévention primaire, juste contre le vieillissement, c'est hyper aussi important de faire du sport parce qu'en fait, le problème du vieillissement, c'est que vous perdez vos...
La prévention primaire, c'est avant un accident.
Voilà. C'est qu'en fait, plus on vieillit, plus on perd du muscle. Mais le muscle, c'est le seul outil, enfin, le seul organe. Plus on le fait marcher, plus on peut le régénérer, même à 70 ans. Donc, il faut faire du sport... bien manger et on fait du muscle.
Donc on dit 7 à 70 ans, mais ça va à 7 à 77, mais ça peut aller beaucoup
ça
plus loin.
Ça peut être jusqu'à 80.
Ouais. Alors, on parle évidemment beaucoup du tennis, mais il y a pas mal de dérivés maintenant qui commencent à bien marcher. Le padel.
Oui, alors le padel, le beach tennis.
Le beach tennis, incroyable.
Ça fait partie des attraits du tennis. Le tennis, c'est un sport qui est ludique et qui est convivial et on s'amuse. Et c'est la base du sport. Je pense qu'à partir du moment où on prend du plaisir, on s'amuse. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler la définition de l'OMS de la santé qui dit que c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et que ça consiste pas seulement à une absence de maladie et d'infirmité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et dans le tennis, vous retrouvez le physique, parce que vous courez. Le mental, parce que vous êtes obligé de vous concentrer et vous n'allez pas penser au rendez-vous que vous avez raté ou... Vous êtes sur le tennis, vous regardez pas la balle, vous la ratez. Et le social, bah après, vous allez discuter des matchs, du truc, c'est convivial.
Bien sûr, ça, c'est le sport, et le sport idéal. Je pratique moi-même. Donc
beaucoup de sports sont idéaux, mais je veux dire que le tennis remplit toutes les cases. Ouais. Et c'est pour ça que on a été très ravis en 2016 et en 2018. Il y a une étude qui a été faite sur 80 000 personnes, c'était en Angleterre, où ils ont pris 80 000 personnes et ils les ont suivies pendant 10 ans. Mmh. Ils ont pris un panel de gens qui c'était sport de raquette, c'était pas tennis, sport de raquette, des gens qui jouaient au foot, des gens qui couraient, des gens qui nageaient, et puis des gens qui faisaient rien. Le sport qui arrivait en premier, le tennis, avec 56% d'accidents cardiovasculaires en moins et 47% de toutes causes de mortalité en moins.
Oui. Le nombre de licenciés, de pratiquants augmente avec le temps. Bon, peut-être que l'année 2020 était une année blanche.
Oui, enfin, l'année 2020 était compliquée. L'année 2021 va être encore compliquée, mais probablement...
Mais il y a de quoi accueillir plus de pratiquants. Et
bien sûr, oui. On a à peu près 1 million, et puis on espère toujours un petit peu plus.
Pour finir sur le plan, pour revenir sur le tennis santé, que vous avez élaboré avec votre équipe, ça passe évidemment par les formateurs, mais on peut aussi trouver des choses sur votre site internet. Quoi.
Oui, alors on peut très bien aller sur le site FFT, puis vous allez sur le label Tennis Santé, et vous allez trouver nos 140 ou 145 clubs qui sont labellisés, avec les numéros de téléphone, et vous pouvez les appeler.
Merci Bernard Montalvan, médecin de la Fédération Française de Tennis. Vous êtes un des médecins les plus importants de cette fédération, et un des plus anciens. Sans vouloir vous vieillir, quelques décennies quand même.
On va dire quelques décennies. Merci beaucoup de nous avoir invités. La Fédération Française de Tennis, on est ravis.
Merci beaucoup. Merci Bernard Montalvan. On va à présent accueillir Jacques-Olivier Barral, patron France de la société BlackRoll.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Jacques-Olivier Barral, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors d'abord, un grand merci parce que vous venez de Toulouse, vraiment que pour l'émission.
Je devais honorer l'invitation. Merci pour l'invitation.
Vraiment un grand merci. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Alors vous êtes dans le bain du sport depuis de nombreuses années, du sport et de la santé d'ailleurs.
Ouais.
Puisque vous avez été préparateur physique dans le monde du rugby, c'est ça ?
Tout à fait. J'avais un centre d'entraînement à Toulouse qui était dédié... Alors, en partie aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux monsieur et madame tout le monde, ouais. qui en a monté il y a plus de 12 ans et que mon associé continue à faire briller actuellement.
Alors, vous êtes country manager de Blackroll, donc ouais. vous représentez Blackroll en France, qui est une entreprise...
Alors, allemande, avec un siège qui est basé en Suisse, mais c'est une entreprise suisse-allemande et qui ouais. est arrivée en France. Nous, on a commencé par être distributeur pour cette marque, formateur, et de fil en aiguille, maintenant, j'ai effectivement pris les fonctions de
Alors,
country
sport
manager.
Santé, sport santé, c'est évidemment indissociable, en plus du plaisir des performances, j'imagine. Vous êtes là pour améliorer évidemment les performances, mais aussi ouais. peut-être la santé des gens.
Oui, dans la chronologie, c'est vrai qu'on a d'abord été connu et reconnu par le monde du sport du haut niveau, mais aussi beaucoup par la santé, parce qu'on forme énormément de kinés et qui, eux, ensuite, parlent du produit et parlent de l'automassage à leurs patients et leur proposent de faire ça. Ouais. De manière autonome à la
et
maison.
Ça, c'est dommage parce que du grand public, c'est pas assez connu, moi, je trouve, l'automassage. Alors, vous vous dites que qu'entraîner les muscles, c'est bien, mais entraîner leur enveloppe, qu'on appelle le fascia, c'est encore mieux.
Voilà, c'est le gros mot qui est le fascia. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on parlait de fascia en France, c'était compliqué, ça l'est encore un peu, et c'est pour ça que l'automassage a du retard, sans doute, en France, c'est parce que cette notion de fascia est pas du tout connue du grand public, mais c'est en train d'arriver petit ouais. à petit, et cette enveloppe qui fait la liaison entre tous les muscles, tous les organes, est vraiment très importante et trop méconnue pour l'instant.
Alors justement, donc vous, les produits que vous avez, donc qui permettent aussi aux sportifs d'être un peu acteurs de son entraînement et voire de sa santé, quoi.
Alors le sportif, lui, il est habitué à être acteur de son entraînement et de sa santé, donc eux, c'est naturel pour eux d'utiliser des outils comme ça. Ouais. Mais ça serait bien que maintenant les monsieur et madame tout le monde deviennent acteurs de son traitement quand il y a un traitement et de sa prévention quand il faut juste faire attention à rester en bonne santé le plus longtemps possible.
Alors vous prenez donc l'automassage. C'est quoi l'automassage?
L'automassage, c'est le fait de venir appliquer une pression sur ses tissus, soi-même, avec son poids de corps, et grâce à un outil, donc une balle, un rouleau, ça dépend de ce dont on ouais. a besoin et quelle zone on veut aller toucher.
Et ça remplace ou ça complète les massages classiques ?
Ça ne remplacera jamais. Ce qu'on dit toujours, c'est si vous avez la chance d'avoir votre kiné à domicile tous les jours, partez pour le kiné à domicile, c'est bien mieux. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on a le kiné de temps en temps, et quand on n'a pas le kiné, ben c'est intéressant de savoir soi-même pratiquer des choses qui sont bien pour son corps.
D'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est d'automassage, donc on peut s'automasser, mais partout, finalement.
Oui, partout.
Les bras, alors, les jambes,
voilà,
le dos.
Toutes les zones du corps, et puis ouais. j'ai envie de dire partout dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que on a une grosse partie de notre travail qui est aussi liée sur le lieu de travail, c'est-à-dire des gens qui font des choses sur le lieu de travail avec une balle, qui viennent travailler pour un problème de canal carpien, qui viennent travailler leur voûte plantaire, juste pour éviter la fatigue sur le travail. Et aujourd'hui, on a aussi une grosse campagne sur le télétravail parce que les gens travaillent à la maison dans des conditions qui sont loin d'être idéales bien souvent. Ouais. Et donc, c'est d'avoir ces petites routines pour continuer à avoir du mouvement, on prend le mouvement et de
et prendre... Et même peut-être aussi dans l'enceinte de leur entreprise, non ?
Tout à fait. Oui. Dans les entreprises, soit des espaces dédiés, soit en ayant un outil ou deux sur son bureau et prendre un moment, 5 minutes, pour s'occuper d'une petite tension qui est en train d'arriver.
D'accord, alors donc vos produits, donc, c'est des rouleaux, des balles, des objets vibrateurs.
Alors,
il y a de mauvais jeux de mots.
Non, on fait attention, mais il y a effectivement un noyau vibrant qu'on peut introduire dans les rouleaux ouais. qui permet de le rendre vibrant parce qu'on sait que la vibration rajoute un peu de relâchement et a des vertus qui sont intéressantes.
Donc ce sont les principaux rouleaux de massage, c'est ça en fait?
Ça, c'est vraiment le rouleau de base, le Black Roll au départ qui était tout noir, c'est vraiment par ça que ça a commencé.
Et de là, c'est une composition particulière, non?
Oui, c'est du polypropylène expansé, c'est des matériaux 100% recyclables, il n'y a pas d'agglomérant, c'est juste le procès de fabrication qui fait que ça tient et que ça a une pression qui est idéale.
Ouais. Donc à part ces rouleaux, donc vous avez aussi
des... Oui, il y a des balles, il y a des rouleaux plus petits, il y a plein d'outils divers et variés en fonction des formes et aussi des différences de dureté, c'est-à-dire que ça peut être plus ou moins dur, ouais. Pour que ça soit adapté à la zone qu'on veut toucher et à la personne, au niveau d'habitude de la ouais. personne qui le pratique.
Donc, les acheter, c'est bien, mais les utiliser, c'est mieux. Ouais. Donc vous avez donc créé des réalisables, des tutos, des
tout à fait. Alors il y a plusieurs moyens. On est accompagné soit par des gens qu'on forme, des black roll trainers, des gens qui ont suivi des formations, qui soient coach ou kiné. Mais il y a aussi plein de tutos sur internet. Et nous, on a une application gratuite,
une application
black roll tout simplement, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger. Et vous il suffit de dire quel outil vous avez, quelle zone du corps vous voulez traiter, et là vous aurez des préconisations d'exercices.
Vous êtes aussi, pour finir, un peu dans le sommeil, non? Parce que je vois un oreiller.
En fait, il faut savoir que Blackroll, c'est vraiment la marque spécialiste de la récupération. La récupération, on sait aujourd'hui qu'un des grands volets de la récupération, c'est le sommeil.
C'est le sommeil, bien sûr.
Et donc, il y a effectivement un oreiller à mémoire de forme qui est très, très plébiscité par les sportifs, parce que l'avantage de cet oreiller, c'est qu'il est idéal pour la maison. Mais après, vous voyez, quand vous partez en voyage, vous le roulez comme ça et vous le redéroulez là où vous êtes arrivé. Mmh. Et donc, c'est le bon oreiller, mais qui vous suit partout. Il y a aussi une couette. L'idée, c'est de travailler sur tous les produits qui peuvent vous aider à améliorer vous-même votre santé, vous sentir mieux, vous aider à mieux récupérer, et donc à mieux performer.
Mmh. Est-ce que la crise Covid, finalement, vous a un peu boosté ou pas?
Oui, en fait, boosté, on s'en serait passé, comme tout le monde. Mm-hmm. Mais effectivement, ça a eu un effet sur les ventes, du fait que des gens ont dû s'équiper pour chez eux. On a vu une prise de conscience du besoin de faire des choses par soi-même. Parce que de toute façon, les professionnels de santé, les professionnels du sport n'étaient plus là pour nous aider. Il y a des gens, hélas, qui ont arrêté de pratiquer le sport. Mais il y en a beaucoup qui ont décidé de se prendre en main.
Merci beaucoup, Jacques-Olivier Barre. Merci beaucoup. On va donc s'automasser tous.
Je vous le conseille.
Et vous l'espérez surtout.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. On va à présent accueillir Catherine Rive, qui est présidente du CB France et présidente de la commission communication du LEM, les entreprises du médicament, et Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Catherine Rive, bonjour.
Bonjour Fabien.
Olivier Robichon, bonjour.
Ça va Fabien ?
Très très bien.
Bon.
Alors Catherine Rive, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes diplômée d'HEC, vous avez fait toute votre carrière au sein de l'industrie pharma, et depuis 2 ans vous dirigez la filiale France du groupe UCB. Vous êtes aussi, depuis 2 ans je crois, la patronne de la commission communication du LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Olivier, pour une fois qu'il y a des femmes...
Il faut le dire, il n'y en avait pas beaucoup. Ça s'améliore. Ça a longtemps été un univers très très macho. Oui.
Absolument. Alors, juste un mot sur votre labo pharmaceutique, quand même, UCB. Donc, UCB, ça pose dans des domaines, j'allais dire sérieux, tous les domaines sont sérieux.
Tout à fait, dans les domaines des maladies graves, puisque UCB est un laboratoire biopharmaceutique européen, dont le siège est basé à Bruxelles, et donc spécialisé dans les maladies graves, notamment dans l'immunologie et la neurologie, comme l'épilepsie ou les maladies rares, par exemple.
Et des maladies qui ont largement bénéficié des progrès technologiques ces
derniers
temps, oui.
Exactement. Et en France, nous sommes à peu près 150 personnes et le laboratoire a plus de 90 ans dans le monde.
Alors, donc vous êtes à présent donc présidente de la commission communication du LEM. C'est un sacré boulot, non? Un sacré challenge. Parce que c'est vrai que l'image, je dis pas à juste titre, a souvent été un petit peu écornée, suspicion, voire hostilité, c'est ça, non?
C'est vrai que l'image des laboratoires pharmaceutiques n'a jamais été très bonne, et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un mythe très très fort. Déjà, à la commission, je ne suis pas seule, puisque je suis accompagnée de 25 autres membres, et on s'est attelé avec pour objectif d'améliorer l'image des laboratoires pharmaceutiques. En partant d'un constat tout simple, qui est que la connaissance nourrit la confiance, et donc la confiance nourrit l'image, et peut-être avec une meilleure image, on arriverait à faire bouger un peu l'image et donc la réputation de notre secteur.
Alors Olivier, un petit peu quelques causes, très rapidement,
de cette image. D'abord, c'est aussi de leur faute, je le dis en toute amitié, mais parce que longtemps... Il y a longtemps, l'industrie restait terriblement silencieuse. C'était vivons heureux, vivons cachés, et c'est vrai qu'il y avait très peu de prise de parole. Après, on sait aussi qu'il y a eu, il ne faut pas le nier, des scandales, des affaires, et que l'opinion publique a cette facilité à globaliser. C'est-à-dire que
à faire des
un pourri, tous pourris, voilà. Et donc on va assez vite. Et puis il y a, mais ça, Catherine le sait mieux que tout le monde, des problèmes de transparence, et puis des problèmes qui reviennent régulièrement. En ce moment, le problème d'actualité, c'est le problème de pénurie de médicaments. Donc le LEM a mis en place un baromètre. Qui permet tous les 10 ans d'avoir une idée à peu près fixe.
On va y revenir
de l'image qu'on le grand public.
Peut-être une des causes aussi, c'est peut-être le manque de collaboration avec les professionnels de santé, les médecins.
C'est son dada, Fabien. Ça revient régulièrement.
Parce que je le dis depuis des années et des années.
Peut-être au-delà du manque, je pense que c'est ce que vous appelez par les liens d'intérêt. Hein. Je pense que ce qui est reproché aujourd'hui à l'industrie, c'est cette opacité, ce conflit d'intérêts, ce lobbying de la.
On sait que les grands patrons qui n'ont pas bossé avec l'industrie pharma ne sont pas les plus parfois compétents.
Alors,
ça, c'est personnel. Hein,
mais c'est un avis personnel. C'est une industrie, c'est une des industries les plus régulées. Et donc, dans le domaine de la transparence, vous savez que nous devons déclarer tous les liens d'intérêt que nous avons. Et aujourd'hui, on voit bien, hein, autant plus dans la pandémie dans laquelle nous vivons, nous devons travailler avec les uns des autres, parce que tout seul, on n'arrivera pas. Et donc, on
c'est
doit travailler.
C'est ce que je dis. Il n'y a pas un expert compétent en médecine qui n'a pas travaillé avec l'industrie pharma.
Et d'ailleurs, incontestablement,
c'est normal.
Ça nous permet de faire le lien avec le baromètre, il y a une excellente image de l'industrie du médicament auprès des professionnels de santé.
Ouais. Alors justement, donc c'est un baromètre, c'est ça que vous éditez tous les ans.
Tout à fait, c'est un baromètre qui nous sert depuis plus de 10 ans. Hein, nous faisons chaque année pour suivre nos forces, nos faiblesses, pour en tirer les leçons. Et donc le dernier baromètre a été fait en fin de l'année dernière, donc avant la découverte des vaccins.
D'accord.
Et ce baromètre a montré deux éléments importants qu'il faut retenir. Le premier, c'est que notre image s'est améliorée auprès du grand public. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers, humblement, certes, mais
on
partait de très très loin, et il y a une défiance très forte du grand public, et donc nous avons réussi, avec plus de transparence, plus de dialogue, à améliorer notre connaissance, la connaissance du secteur, des entreprises du médicament auprès du grand public. Et le deuxième élément, c'est une image qui s'est beaucoup améliorée, notamment auprès des jeunes. Et notamment, au-delà.
Là, on a, effectivement, les chiffres sont intéressants parce que, l'image, elle est meilleure, effectivement, qu'elle ne le fut, mais elle reste, donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. 39% hein, des Français ont une bonne opinion de l'industrie pharmaceutique, mais on passe à presque 50% chez les 25-40 ans à peu près. Donc, on sent qu'il y a un frémissement quand même. Et effectivement, Catherine, vous l'avez dit, c'est. Il y a une volonté de montrer ce qu'on fait, de dire ce qu'on fait, qui n'était pas la ligne directrice du secteur il y a 15-20 ans encore.
Et ça, c'est un axe que nous assumons totalement. Hein. C'est un virage que nous avons fait au sein du LEM, de communiquer, d'ouvrir beaucoup plus au grand public. Venez voir les entreprises du médicament. Et d'ailleurs, j'incite l'ensemble de tous les acteurs, que ce soit grand public ou professionnels de santé, à aller voir sur le site lem.org. Oui. Et il y a toutes les informations, toutes les fiches sur les médicaments, sur les entreprises du médicament.
Et peut-être aussi que cette année Covid, hein, même si on s'en serait passé, hein, elle a quand même mis au grand jour que cette collaboration qui pouvait être possible entre tous les laboratoires pharmaceutiques mondiaux, et qui a permis justement d'aller aussi vite dans la réalisation de molécules comme le vaccin.
C'est vrai que l'enquête Ipsos a été faite au mois d'octobre, donc avant la découverte des vaccins, mais clairement l'enquête a montré que 2/3 des Français ont pensé que les entreprises du médicament ont joué leur rôle dans cette pandémie. On a accompagné les patients, on a accompagné la prise en charge des patients et surtout on a assuré des médicaments qui sont nécessaires dans réanimation ou au sein des hôpitaux.
Très bien, s'il n'y a pas encore de baromètre fait depuis la découverte du vaccin en France, il y en a aux États-Unis, ils sont très forts pour ça, ils adorent ça.
Oui.
Hein. Harris Poll fait une étude tous les 6 mois et la dernière est sortie il y a 3 jours, hein, mercredi. Et on constate effectivement que, alors là, on s'adresse à des Américains qui sont parfaitement conscients du vaccin, même si chez eux aussi il y a des problèmes de livraison, il y a des problèmes de stock. Et là, on s'est aperçu qu'il y a juste un doublement de la bonne image. Harris Poll demande aux Américains de juger l'industrie pharmaceutique sur une échelle de 1 à 7. Et aujourd'hui, 63% des Américains donnent une note de 5, 6 ou 7, alors qu'ils étaient 30% il y a un an. Donc, je pense que les vaccins vont jouer un rôle moteur. Reste à l'industrie pharmaceutique à savoir en profiter, à savoir, au bon sens du terme, à savoir l'exploiter pour ouvrir les portes. Quoi.
Alors, il faut parler de l'avenir, hein, de ce que vous comptez faire. Donc, c'est peut-être un peu trois axes sur lesquels vous allez communiquer, sur peut-être les pénuries, sur la transparence, sur les prix.
Alors, clairement, aujourd'hui.
Qui sont pourtant, qui sont pourtant très bas en France.
Exactement. Donc, aujourd'hui, l'axe, c'est un travail de longue haleine, hein, parce qu'on on revient de loin. Et le public nous attend clairement sur différentes actions. communication. Donc notamment, donc continuer à communiquer, continuer à être travailler sur la transparence de notre secteur, continuer à valoriser. Donc il y a beaucoup de communication en ce moment sur les métiers des industries de la santé, et puis continuer à travailler sur les trois éléments qui sont aujourd'hui nous sont reprochés et sur lesquels la société nous attend au tournant. Donc sur les prix du médicament, sur les pénuries des médicaments, et puis sur la transparence, encore la transparence du secteur.
Olivier ?
Il y a un dernier souci, c'est que 34% seulement des Français, c'est ce qu'on apprend dans ce sondage, estiment que les laboratoires prennent assez de risques avec leurs finances, avec leurs fonds, pour découvrir des médicaments. Ça, ça démontre que les Français ne savent pas comment ça se passe, ouais. Et que là, il y a un manque d'explication.
Oui, parce que 34, c'est pas beaucoup.
Ah bah non, c'est rien du tout, alors que le risque, il est réel. On sait qu'il y a un produit sur 100 qui arrive au bout, et on l'a vu, par exemple, pendant la crise, hein, tous les essais cliniques ont été faits sur des médicaments existants, la plupart ont été financés par l'industrie, et pour aucun qui a marché. Il y a de l'argent pour financer tout ça, et malgré tout, il n'y a qu'un Français sur trois qui pense que l'industrie prend des risques. Donc je pense qu'il y a besoin d'une loupe un peu grossissante sur comment ça fonctionne à l'intérieur. Les Français ne sont pas plus bêtes que les autres, et notamment pas plus bêtes que les Américains, en tout cas j'espère, et donc il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas capables de comprendre les risques du métier, on va dire.
Et pédagogie, ouais. Hein, c'est ce que nous essayons de faire tous les jours, apporter des éléments de réponse, apporter des éléments de contexte également, et expliquer encore plus à tous les Français sur le bien-être, notre savoir-être, et sur ce que nous faisons dans le secteur de la santé.
Très belle campagne sur les métiers de la pharma sur le site du LEM en ce moment, Catherine le disait, une très belle campagne sur les métiers de la pharma qui valorise les métiers, c'est un premier point de départ. J'incite tout le monde à aller jeter un œil sur le site du LEM. LEM.org, c'est facile, hein, tout le monde le connaît. Voilà.
Merci beaucoup Catherine Rive, merci Olivier Robichon,
merci
beaucoup. On est évidemment tous avec vous pour justement redorer à ce titre cette image de l'industrie pharma qui fait que l'espérance de vie augmente tous les ans quand même. Voilà, on ne pouvait pas finir cette émission sans souhaiter un bon anniversaire à la magnifique et splendide Éléonore. Voilà. Bon, bon anniversaire Éléonore. Tu es contente de parler dans cette émission ?
Les métiers de l'industrie de la santé de demain.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.